Tout est beau. Salut Eric, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi-même, Dom.
Oui, ça va bien. Bon, là, j'avais hâte de te parler parce que John Cooper, avant-hier, il a laissé Kucherov sur le banc en troisième toute la période. Fait que là, l'image RDS nous montrait Kucherov. Il avait l'air d'être assis, tu sais, où les gardiens... Ça, je comprends pas ça encore. Il y a bien des bancs dans la Ligue nationale. C'est des nouveaux amphithéâtres, mais les bancs autour sont payants. Hein? Fait qu'on essaie d'en faire des bancs les plus petits possibles pour les joueurs. Fait que le goaler est tout le temps assis dans les estrades ou bien l'autre bord de la patinoire, comme au Centre Bell, d'ailleurs. Donc, il y a des gardiens auxiliaires qui sont même pas assis avec leurs joueurs. Ceci dit, Kucherov, il était assis à l'autre bout du banc, là, et je te dis, on se demandait s'il jouait encore pour le Lightning. Là, John Cooper, son équipe cette année en arrache. Ils ont perdu en 4 matchs contre Columbus en série l'année dernière en première ronde, on s'en souvient. Il y a une pression sur lui de gagner. C'est quoi le gag? Parce que moi, sincèrement, je comprenais pas qu'est-ce que Cooper faisait là, mais toi, t'as coaché toute ta vie, tu vas me ramener à l'ordre. C'est quoi la joke de pas prendre Kucherov dans un match contre Ottawa au moment où ça te prend un but pour gagner le match?
Je pense qu'il avait décidé de passer un message très important. Là, on voit pas tous les matchs de Tampa Bay, mais il est très clair que cette année, il est pas satisfait de la façon qu'il joue. Puis il était carrément responsable des deux derniers buts d'Ottawa. Je pense que c'est l'accumulation depuis le début de l'année qui a fait en sorte qu'au bout de la ligne, il a décidé d'y taper ses doigts. Il a utilisé la méthode forte. Son club va pas bien. John Cooper, il est pas fou, il est sur la sellette, lui, ici. Il voit qu'il y a une vague d'entraîneurs là, qui perdent leur travail depuis le début de l'année. Il en a déjà 5, puis on n'est pas rendu à Noël. C'est que lui, il sait là, que ça passe ou ça casse. Et dans sa façon de travailler, on sait que c'est un gars qui a la réputation d'être très proche de ses joueurs, sauf que la méthode n'a pas fonctionné, à part en saison régulière, puis les séries se sont écrasées dans les dernières années. Et puis là, surtout que cette année... C'est un club qui, normalement, a terriblement de succès en saison régulière, n'est pas qualifié encore dans les séries si les séries commençaient demain matin. C'est qu'au bout de la ligne, je pense que le coach sent la soupe chaude. Je pense que le coach a voulu passer un message très clair à son équipe en s'attaquant à son meilleur joueur qui ne joue pas à hauteur de ses capacités, ce qui fait en sorte que, comme coach, mais tu as le droit de porter des actions comme ça. C'est sûr que c'est un couteau à deux tranchants. On sait pas comment il va réagir. Il boudait de façon assez internationale, là, au bout du bain, ouais. C'est le cas de le dire, là. Ouais. C'est classique souvent à ces joueurs, aux joueurs qui viennent de ce coin-là. Mais ça va surtout être de voir comment il va réagir et surtout de voir quels sont les appuis. Parce que dans une chose comme ça, pour qu'un coach aille oser faire ça, probablement que les joueurs n'ont déjà plein le bot, plein le casse de voir comment que leurs coéquipiers se comportent depuis le début de l'année.
Okay.
Et je suis certain que Cooper, en prenant cette décision-là, qui est pas une petite décision, mais probablement qu'il s'est dit, je vais récupérer le reste de mes vétérans, le reste de mes leaders qui doivent avoir hâte que je le fasse, ce geste-là.
OK, mais Eric,
sinon,
oui, mais juste une question là-dessus.
Tu dis,
OK, les joueurs, probablement qu'ils vont prendre le bord du coach, mais c'est rare qu'un coach a gagné en affrontant un joueur vedette. Évidemment, pour nous, plus près de nous, à Montréal, ben, c'est l'épisode Mario Tremblay avec Patrick Roy qui nous vient en tête. Mais est-ce que Cooper, quand il fait ça, il est convaincu que Julien Brisebois va prendre son bord?
Non, ni Julien Brisebois, ni ses joueurs. Moi, je pense que quand tu prends des décisions de même, tu prends un gamble, tu y vas avec ton feeling. Moi, je pense qu'il sent la soupe chaude terriblement. Il s'est dit, faut que je donne un coup de barre pour montrer que je suis en contrôle de mon équipe. Puis présentement, mon meilleur joueur, il nous coûte des points, il nous coûte des matchs, il triche, il n'y a pas de pédale dans le plancher. Ce qui fait en sorte que si je laisse aller ça, l'hémorragie va devenir encore plus grande. Puis souvent, dans ce moment-là, ce que je veux dire, c'est que les joueurs attendent que le coach fasse un move. Combien de fois on entend des joueurs sous l'anonymat dire, bon, on a hâte qu'il tape ses doigts ou on a hâte qu'il, au bout de la ligne, il va être en mesure de dire, je le sors de l'alignement. Ils n'en sont pas rendus là. Ils viennent de donner une première tape ses doigts assez importante. Mais c'est dans le sens que j'ai l'impression que face aux joueurs, ils viennent montrer qu'il va prendre des décisions. Et là, souvent après ça, le reste des joueurs vont avoir les fesses un peu plus serrées parce qu'ils se disent, s'il a sévi contre notre meilleur joueur, mais au bout de la ligne, il va peut-être le faire contre nous autres. Puis je pense qu'il essaie de créer un électrochoc, pas juste chez le joueur, mais de faire réagir l'équipe aussi, puis de mettre les joueurs sur le qui-vive, à savoir, mon tour va-tu venir, puis ça peut-tu être à moi que ça arrive la prochaine fois si je donne pas mon plein rendement.
OK. Tantôt, tu disais on voit pas tous les matchs du Lightning, et tu as entièrement raison. Mais en termes statistiques, évidemment, je peux t'annoncer qu'à presque 3000 km de Tampa Bay, je te dirais que j'analyse ça les deux pieds sur le pouf, puis je regarde Kucherov, 35 points en 31 matchs, différentiel de plus 3, et il doit être vache pas à peu près dans les pratiques pour avoir manqué une période au complet, là.
Il nous manque peut-être aussi des éléments dehors de la glace, Dan.
OK.
Il y a des journées là où tu en as contre le joueur. Tu sais, on n'a pas tout su ce qui est arrivé avec Radulov à Dallas. Pourquoi ils l'ont sorti du line-up? C'est-tu vraiment juste les performances? Il est-tu arrivé en retard à un meeting? Il est-tu slopé? Il travaille-tu moins fort? Le coach, penses-tu qu'il peut en donner encore plus? Il y a un paquet de petits éléments comme ça que nous, on voit pas à TV, qu'on voit pas au quotidien. Je te dirais, si c'était à Montréal, on le verrait parce qu'il y a tellement de médias.
Ouais, c'est ça.
T'aimes pas bien. Il n'y a pas un show là, après la game. Ils sont pas trop interviewés John Cooper pour faire tout qu'un scandale avec ça. Là. La question, c'est de se poser la question. Il nous manque sûrement des éléments qui font en sorte qu'au bout de la ligne, là, le coach commence à en avoir plein ses bottes. Et probablement que le coach a eu des rencontres avec son joueur. Puis quand tu regardes les deux buts qu'ils ont donnés, où il est directement responsable, probablement que ça fait plusieurs fois qu'il a rencontré son joueur vedette pour lui dire « Tu peux plus faire ce genre de revirement-là. Tu peux plus être aussi paresseux défensivement quand vient le temps de protéger l'enclave. » Parce que c'était carrément ça, les deux buts. Un revirement de pee-wee, de jeu à haut risque, et même chose pour l'autre, où il était très paresseux dans sa couverture dans l'enclave qui avait donné le deuxième but. Je pense qu'il a déjà eu des rencontres avec son joueur vedette. Il a déjà rencontré son gars dans le bureau en faisant du vidéo.
Okay.
Tu peux plus te permettre ça. C'est que je pense que c'était l'aboutissement qui fait en sorte qu'on dit « j'y tape ses doigts pour le faire réagir ».
Éric, le Canadien joue à Calgary ce soir, puis chez les Flames, ben Martin Gélina est un ancien de la LHGMQ, un Québécois qui... Et t'adjoint là depuis quelques années, puis là, il y a des reportages qui racontent que comment Gélina a vécu la saga Bill Peters. Mais ma question, c'est pas sur la saga pour toi. Un entraîneur adjoint, je pense qu'il est rendu à son quatrième entraîneur-chef, puis Jacques Laparrière, il en a passé à peu près 10-12 avec le Canadien comme entraîneur adjoint. Est-ce que t'es pour ça, toi, un adjoint qui reste là malgré les coachs en chef qui débarquent, ou tu serais plus du genre, si t'étais DG ou président d'une équipe, à quand tu tasses ton coach, tasser tout le monde autour?
En pleine saison, c'est dur de tosser tout le monde. Parce que ça prend, ça faut être en mesure de donner de l'information au coach. Là, dans le cas présent, c'est un adjoint qui était là, qui était déjà là, qui a été promu au titre d'entraîneur-chef. Sauf que ça dépend carrément de la personnalité de quelqu'un. Chaque individu a sa propre personnalité, puis tu as des individus qui réussissent à s'adapter facilement. Puis on me dit que Martin Gélina est un sacré bon gars qui a une personnalité qui est attachante, que les gars ont le goût d'être avec. C'est quand tu vois des gens durer comme ça, comme tu viens de mentionner Jacques Laperrière, c'est des gars qui sont appréciés par leur travail, mais qui ont aussi une personnalité qui est capable de s'adapter à la nouvelle personnalité de chaque entraîneur-chef. C'est que c'est pas... De faire le grand ménage, ça arrive plus tellement souvent. Ça va plus arriver dans l'entre-saison quand un gars veut amener son staff au complet. Mais pour le reste, quand des gens sont en place, puis que l'entraîneur-chef peut sentir que l'adjoint est un gars fidèle, ou c'est un danger, c'est quand il est très, très, très proche, puis que c'est un ami personnel, l'entraîneur-chef, là, c'est délicat. De l'ancien entraîneur-chef qui a été congédié, là, c'est délicat de le garder, parce que c'est le jeu des comparaisons, puis tu sais que le gars parle avec l'ancien, puis il y a comme une situation d'inconfort. Mais pour le reste, il y a des gars qui ont une parfaite personnalité pour être capable de s'adapter à tout le monde, puis ça coule très bien, autant auprès des joueurs qu'auprès du nouvel entraîneur-chef.
OK, ce soir, les gens vont voir à l'œuvre le Canadien contre les Flames, c'est à 21h, et là, les prochaines minutes, c'est le bout de l'entretien où on s'entendra pas. Parce que je veux que tu me parles de Ryan Poehling. Ryan Poehling, moi, depuis qu'il joue à Montréal, il m'impressionne pas, mais toi, tu vois plein de belles choses en lui. Raconte à nos auditeurs, qu'est-ce que tu vois en Ryan Poehling de si impressionnant que moi, j'ai pas vu?
Ben, je veux d'abord dire que c'est normal que t'aies pas vu parce qu'il joue 7 minutes par game. C'est qu'en jouant 7 minutes par match, il nous donne pas grand-chance de nous montrer. Sauf que si on porte une attention particulière pis on avait une caméra isolée sur lui, il fait des choses que plusieurs joueurs de la Ligue nationale sont capables de faire, à savoir de joueurs rétablis dans la Ligue nationale, à savoir de protéger sa rondelle, de travailler le long de la bande. Faut qu'il aille un petit peu plus au filet, puis ça va arriver avec la confiance. Faut qu'il lance un peu plus, puis ça va arriver avec la confiance. Mais moi, je pense qu'il y a le patin, il y a le physique, qui est capable de protéger sa rondelle comme un vrai joueur de la Ligue nationale. J'ai hâte de le voir jouer 12, 13, 14 matchs, 14 minutes, pardon, où il va aller chercher sa confiance, où il va aller chercher son air d'aller, où il va aller chercher son parfait synchronisme. Je trouve qu'il a les outils parfaits pour jouer dans la grosse ligue. Je dis pas qu'il perd son temps en bas parce qu'il brûle pas la ligue en bas, mais c'est un gars qui ne brûlera jamais la ligue, ni en haut, ni en bas, mais qu'à mon avis, si on fait jouer, si on l'utilise et on lui donne de l'expérience, il va devenir encore meilleur. Tu as des petits joueurs, tu as des joueurs de finesse qui, des fois, ont besoin d'aller chercher le temps de réaction dans la Ligue américaine, ont besoin d'aller marquer des buts pour se faire une réputation. Lui, ce ne sera jamais un grand marqueur. Je pense qu'il en a marqué 8 à sa dernière année universitaire.
Ouais.
Mais ça va être un gars qui a le style Ligue nationale, le parfait candidat.
C'est
qui
quoi?
Va être aimé par un coach dans tous les sens de la patinoire, mais faut qu'on il laisse jouer. Et regarde le jouer en bas de zone quand vient le temps de protéger sa rondelle. Regarde-le sortir du coin. Ça commence à s'en venir, puis je trouve qu'on le voit de plus en plus, mais j'aimerais qu'on le voit encore plus en lui donnant plus de temps de glace.
OK. Dans un monde idéal, quand il va être à maturité, pour toi, ça va devenir le joueur de centre du troisième trio?
Ça va être honnêtement un joueur parfait de troisième trio qui va pouvoir remplacer facilement sur un deuxième. Ça va vraiment être, je te dirais, un septième attaquant. Septième attaquant, t'es vraiment in between quand il y a des blessés, mais tu te retrouves à prendre la place d'un autre, c'est le deuxième trio. Quand t'es dans une très bonne séquence, tu peux te retrouver sur un deuxième trio, mais ça va être un joueur plus qu'efficace. Tu sais, aujourd'hui, on l'aime tout, Philippe Danault, là. Je suis pas sûr que de Pelling va avoir la même touche autour du filet, mais moi je pense que ça se compare beaucoup à Philippe Danault. Ça va être un gars que dans une bonne équipe, t'es alternes entre le 2 et le troisième trio, les deux en fonction, sont-ils d'une bonne séquence ou non. Puis t'as un pas pire club quand tes gars sont à maturité de même.
Il va être meilleur que Kyle Tchupchera, tu me garantis ça, là.
Ça, tu peux tout de suite choisir la bouteille de vin s'il ne devient pas meilleur. Je te l'achète avec grand plaisir.
OK, mais Eric, tu sais le respect que j'ai pour toi, puis j'aime beaucoup nos chroniques du jeudi depuis quelques années dans mon émission. Sauf que là, je prends ce que tu viens de me dire, je l'enregistre, je l'envoie aux journalistes à Montréal, puis là, je vais leur dire, arrêtez de me dire qu'il y a de l'espoir avec les jeunes joueurs du Canadien. Eric, il nous l'a expliqué en nombre dans l'avant-match. Pelling, ça va devenir le joueur de centre du troisième trio. Allez écouter parler. C'est un autre comme Kotkaniemi qui va se rapprocher de Jean Béliveau. C'est ça! C'est ces histoires-là avec lesquelles je suis plus capable à Montréal. Quand on nous vend cette équipe-là comme si c'était la meilleure de la Ligue, on nous a dit au début de l'année, « Ah, virage jeunesse! Ah, vous allez triper quand l'entraînement, vous en souvenez, Pelling, 3 buts à son dernier match contre Toronto l'année dernière. » Finalement, ce que tu nous dis en ondes ce soir, c'est que c'est un gars complet. C'est un gars qui, déjà à l'âge de 20 ans, a les outils pour jouer dans la Ligue nationale. On devrait même le faire jouer plus, mais jamais il va faire 2 buts, 3 passes dans un match, puis jamais il va faire plus de 55 points dans une saison dans la Ligue nationale. Ça, c'est une question d'attente. Il faut être respectueux envers les auditeurs qui écoutent ce soir, puis il faut leur dire, baissez vos attentes. Éric l'a dit, Pelling, il va être bon, mais c'est pas lui qui va driver l'équipe, puis qui va faire des points comme les autres meilleurs joueurs de la Ligue.
Il y a deux choses là-dedans. Je vais commencer par dire que si Eric était si bon, il serait probablement à Calgary ce soir, il serait pas assis dans son bureau, c'est Jeff Gardeau en train de te parler. L'autre chose, c'est que moi, je pense que oui, il va peut-être faire 55-60 points. On aurait-tu dit ça de Danault à un moment donné? Il va se rapprocher de ça.
Oui, mais je pense Danault joue. Oui, mais c'est pas juste une parenthèse sur Philippe Danault. Je l'aime beaucoup, je sais qu'il a le cœur gros comme l'océan, mais c'est parce qu'actuellement, il est joueur de centre numéro un. Par défaut, permettez-moi l'expression,
parce qu'il joue
très bien, mais il est dans une équipe où il n'y en a pas d'autres, donc il joue toutes les minutes de l'avantage numérique, il joue avec les deux meilleurs alliés de l'équipe, Tatar et Gallagher. S'il était dans bonne chaise, puis si Timmins avait repêché sous le sens du monde, Danault, on le trouverait pas mal moins bon, il serait le centre de la 3.
Je suis d'accord, mais c'est des gars qui peuvent jouer dans la Ligue nationale, puis c'est un gars, Pelling, qui, d'après moi, va pouvoir se rapprocher du 50 points à un moment donné.
Okay.
Moi, Pelling, je pense qu'il va être un bon joueur de la Ligue nationale.
Il n'en fera pas 75, on s'entend, là?
Je pense pas que ce soit un gars de premier trio. Puis des 75, là, t'es sur le premier, proche du deuxième. Mais ça va être un 25e choix en première ronde dans cette année-là qui va rendre de précieux services, qui va être un joueur aimé par Canadien, qui va être un joueur utile pour Canadien.
Okay.
C'est fou, là, mais c'est le genre de joueur exact pour Claude Julien. C'est le genre de joueur que Claude Julien adore. Là, on veut lui donner du millage. Je suis un peu d'accord avec toi que j'ai de la misère avec le virage jeunesse. Je trouve que c'était un peu de la frime, là. C'était pour nous mettre de la poudre aux yeux, pour nous calmer.
Choix de première ronde, Rick.
Fleury joue.
Oui.
Suzuki joue.
Kotkaniemi ne savait plus quoi faire avec. Puis je veux juste te faire une parenthèse. Suzuki, tu sais qu'ils ont perdu contre Détroit à cause de lui, hein? Claude Julien l'a dit. C'est de la faute à Suzuki.
J'ai tout entendu ça, mais Claude, il n'est pas friand de jouer les jeunes. On le sait, là. Puis on le voit avec le Canadien, là. Puis il a eu du succès dans le passé. C'est juste qu'il ne faut pas nous dire que c'est un virage jeunesse.
Mais non, c'est
juste ça. C'est pas vrai que c'est un virage jeunesse.
Le DG donne de l'espoir aux partisans, puis le coach ne les fait pas jouer. Ça va bien?
Ah non, ça c'est sûr, mais c'est à un moment donné, le coach est en arrière du banc, puis Claude il a tendance à vouloir y aller avec ses vétérans. On le sait tous, l'on l'a vu aller depuis longtemps, puis ça c'est son choix, là, puis ça fait longtemps qu'il est dans la ligue. Moi, c'est juste le discours qu'on nous dise que c'est un virage jeunesse. Ça n'en est pas un, parce que les jeunes ne jouent pas beaucoup. Mais au bout de la ligne, pour revenir à Pelling, moi je pense que ça va faire un bon joueur dans la Ligue nationale. Ça, je suis pas inquiète. Puis comme j'ai déjà dit, dans le contexte actuel du Canadien, moi, je pense qu'il devrait jouer. C'est le genre de gars qui il va venir de mieux en mieux, meilleur en meilleur à force de jouer.
Le joueur de centre parfait pour finir 9e dans la conférence, c'est ça?
Tabarouette, gilet du Canadien. Tu m'enverras pas tout de suite un gilet du Canadien, c'est ce que je comprends pour Noël. Là.
Éric, c'est notre dernière de 2019. Fallait short fort, là.
Hein? Ouais, t'es sorti fort, puis si j'en souhaite quoi du Canadien à Noël, moi, ça va que ça vient pas de toi. T'as pas besoin de mettre ton nom sur l'emballage. Tu le sais que ce sera pas de toi, mais je pense que ces jeunes-là, mais moi, j'y vois du talent.
OK, parfait.
Puis je pense que ça va devenir une valeur sûre pour Canadien, puis ça va être un gars, je te dirais, ça va être un 6-7e dans ton top 6 ou bien proche qui va pouvoir, moi, j'espère qu'il va pouvoir finir par être un joueur de deuxième trio.
OK. Hey, juste avant de te laisser, puis de te souhaiter de joyeuses fêtes avec ta famille, parce que c'est notre dernière pour 2019. Je veux que tu me parles de ta job de tous les jours. T'es en charge des équipes sportives au Cégep Garneau. Puis cette semaine, vous avez annoncé une nouvelle importante quand même. Adam Thibault, l'ancien du Rouge et Or, qui a eu une belle carrière dans la Ligue canadienne de football, se joint à votre groupe d'entraîneurs pour l'équipe de football.
Oui, c'est une excellente nouvelle. C'est le fun de voir des anciens joueurs pros qui reviennent dans la région et qui ont le goût de s'impliquer. C'est Claude Junot, notre entraîneur-chef, là, fait un super job de réussir à recruter Adam Thibault qui va nous amener beaucoup d'expérience, beaucoup de crédibilité auprès des joueurs, auprès de nos étudiants athlètes. C'est que ça, c'est important d'avoir des gars comme ça qui ont passé par le Rouge et Or, qui ont passé dans la Ligue nationale, dans la Ligue canadienne de football, qui a gagné des Coupes Grises. C'est que ça amène beaucoup de crédibilité au programme et beaucoup. C'est une plus-value par rapport à tout l'enseignement qui peut être fait auprès de nos étudiants athlètes. Puis je pense que le grand gagnant là-dedans, c'est notre programme de football puis nos 70 étudiants athlètes qui vont au bout de ça. Mais c'est une addition importante à notre personnel d'entraîneur qui est déjà très compétent. Puis on ajoute un joueur supplémentaire dans cette équipe d'entraîneurs-là. Puis ça, pour nous autres, bien, on est très, très content de la situation.
Ça fait-tu buster ton budget? Vous ne serez pas obligé de vendre du chocolat pour le payer, là?
Non, on va être correct. Okay. Je pense que là-dedans, c'est des gars qui sont passionnés. On bosse jamais le budget avec les coachs de football.
Okay.
C'est des gars qui reviennent par passion puis qui sont là pour les bonnes raisons.
En espérant que Adam Thibault en donne plus aux élans que Ryan Pelling pour en donner aux Canadiens.
S'il nous en donne comme Ryan Pelling, va être capable d'en donner tantôt aux Canadiens, mais je pense qu'on va gagner plus souvent qu'on va perdre.
OK, parfait. Hey, joyeuse fête!
Joyeuse fête et joyeuse fête aux auditeurs. Salut Dan.
Salut Eric, on s'en reparle au mois de janvier. Salut bien. Eric Lalligne, le coin du coach chaque jeudi dans l'avant-match.